BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on n'y comprend rien. On passe à l'heure d'hiver alors qu'on a un temps d'été. Bon, ça donne une indication sur la période qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai quand même trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés, sans exception, pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine sur l'économie, la finance, les placements et on va même vous dire ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Franchement, c'est pas un programme, ça. On va commencer évidemment par ce que vous savez, c'est-à-dire le sommaire. Au sommaire, on va d'abord avoir le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est comeback. La question de la semaine, c'est la France est-elle isolée au sein de l'Europe? Le chiffre, bah, évidemment, c'est incontournable. Je sais qu'on en parle beaucoup sur BFM Business depuis quelques jours, depuis vendredi, mais 0,75% la hausse des taux directeurs pour la BCE. En deuxième partie de l'émission, on va vous demander, messieurs, madame, où vont les marché, la question d'argent, les rallyes de fin d'année, est-ce que c'est un truc de vieux traders comme moi ou est-ce que ça existe? Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, évidemment, pour une émission exceptionnelle et surtout pour une émission comme celle-là dans ces temps troublés, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il faut que je respire. Elle a apporté un souffle d'air vert sur le plateau. On apprécie son franc-parler. Léa Dunant-Châtelet, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'adore votre titre. Vous êtes responsable de l'investissement responsable.
Oui.
Chez DNCA Finance.
Oui, mais on double parce qu'il faut absolument tout le monde.
Il faut que tout le monde soit responsable. Alors lui, il est passé d'une banque dont on n'avait pas le droit de dire le nom à un family office dont on peut dire le nom quand même, en passant également par l'enseignement. Vous êtes toujours prof à l'ESCP, Michel Rumi, ils ne vous ont pas viré. Les élèves n'ont pas fait la révolution et ils viennent quand encore à votre cours.
Toujours, je refuse du bon même.
Et alors là, vous avez basculé du côté obscur de la force. Vous êtes donc du partner chez Levy Capital Partner.
Oui,
ça y est, vous êtes banquier, family
office. Oui, parce que c'est bien d'étudier, il faut aussi être côté pratique, ce que je n'ai jamais
oublié. Vous êtes dans le coffre-fort qu'on voit en jingle de l'émission.
Vous êtes vide ou pas, c'est la question.
Il y a trois passions dans sa vie, en tout cas trois passions avouées, les autres on ne les connaît pas et je ne veux pas le savoir. Le vélo, les grands cycles économiques et les valeurs moyennes, et même les petites valeurs. Quand je lui dis valeurs moyennes, non, c'est en dessous, c'est les petites valeurs. Jérôme Fauvel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable small cap à la Française AM.
Oui.
Oui, non. Vous n'avez pas l'air décidé. Ouais, bon, on s'en fout.
Voilà.
Franchement, j'en ai marre des titres ici. Les gens ont des titres à rallonge avec 18 trucs, on ne comprend rien. Moi, j'aime bien, responsable d'investissement responsable. Voilà, je comprends, moi. Le monde est devenu fou. Il n'a plus de boussole, il n'y a plus de cap, mais nous avons un phare géant qui nous guide dans ce brouillard. C'est l'immense Ben Aouda Abdedaïm. Bonjour.
Bonjour, Marc.
Ah, vous êtes surpris par la présentation
Oui, non.
Vous voyez pas en phare dans le brouillard?
Non, pas vraiment. Mais je me disais aussi que dans la presse aussi, tout le monde est rédacteur en chef. Donc, voilà.
Ah ouais, non, mais là, vous verriez les titres à rallonge. Là, il faut s'arrêter parce qu'on pourrait prendre 25 minutes d'émission. On me reproche déjà de faire des introductions qui sont trop longues. Allez, le mot de la semaine, c'est comeback. Ouais, alors c'était ce qu'auraient pu chanter les hedge funds et les financiers il y a quelques jours. Il est des nôtres. Alors rappelez-vous, il a perdu il y a deux mois. Le voici aujourd'hui aux commandes. Rishi Sunak, 42 ans, ex-Goldman Sachs. Ex-gérant de hedge fund quand même. Il est des nôtres, disent les financiers. Il est face à une situation économique et politique qui est évidemment désastreuse. Alors, il fait un comeback, ça c'est clair quand même. Est-ce que ça marque le début du comeback de la Grande-Bretagne, Ben Aouda?
Alors, il va falloir déjà en convaincre les Britanniques eux-mêmes, et y compris l'establishment dont provient Rishi Sunak. La veille de la démission de Liz Truss, vous avez peut-être vu ce papier dans le Financial Times, dans le The Economist, excusez-moi, The Economist, c'était Welcome to Britain. Bienvenue en
Britain. C'était la couverture d'ailleurs.
Exactement, avec une combinaison.
Britain, donc il y avait un jeu de mots sur.
Oui, parce que bon, et puis bon, The Economist adore se faire l'arbitre des élégances, mais bon, peu importe. Mais en soulignant trois points, la même instabilité politique, la même faiblesse de la croissance potentielle et la même subordination au marché obligataire. Donc, ce n'est pas parce que Rishi Sunak, par les hasards de l'histoire et disons des combinaisons internes au Parti conservateur, est parvenu à surmonter en 45 jours la perte qui était la sienne auprès de la base électorale du Parti conservateur, que tout a changé. D'autant que c'est frappant, il est des nôtres, comme vous le disiez, mais Jalan Ganesh, qui est un éditorialiste international du Financial Times, expliquait que parmi tous les premiers ministres qui sont succédés depuis le référendum du Brexit en 2016, c'est le plus résolu, le plus déterminé dans le Brexit.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça ce qui
c'est,
est. Ce qui
c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il est des nôtres. En fait.
Il n'est pas des nôtres.
Il n'est pas des nôtres.
Alors il est jeune, dynamique. Oui. Il a ce CV. Il a épousé une très grande, très très grande fortune indienne. Il est de prime abord, comme il représente la mondialisation dans toute sa splendeur ou dans sa magnificence.
Il y a effectivement.
Mais il est extrêmement britannique dans le fond de sa pensée, c'est-à-dire il colle aux idées majoritaires du Royaume-Uni. De ce point de vue-là, il n'est pas des nôtres, encore pour reprendre une fois encore votre expression.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que voilà, la Grande-Bretagne, ça y est, c'est fini, c'est devenu un pays émergent, un pays de deuxième catégorie, déclassé? Et que de toute façon, voilà, c'est la fin de totale. Bon, la fin de l'Empire britannique, ça fait un moment, mais là, c'est vraiment l'achèvement final.
Après, ils ont une faculté à pouvoir surprendre qui est quand même extraordinaire.
À rebondir.
À rebondir. Pour reprendre encore une surprise, lorsque vous voyez la réaction de Joe Biden, le président des États-Unis, lorsqu'il a appris que c'était Rishi Sunak, il n'a eu ces mots-là pour absolument aucun autre chef d'État ou de gouvernement nommé depuis qu'il est en poste, en disant ces gens-là arrivent toujours à nous surprendre. Et effectivement, le Royaume-Uni parvient à surprendre. C'est ce type de profil-là que le Royaume-Uni, la classe politique, parvient à faire surgir des Tony Blair, on verra s'il est, disons, à la hauteur historique d'un Margaret Thatcher ou d'un Tony Blair. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose. Et puis, un deuxième point qu'il va falloir qu'il surmonte, c'est son déficit de légitimité tout simplement démocratique. Alors, il y a ce que disent
certains. Parce que ce n'est pas un élu de terrain.
Oui, non, mais il est député, il est élu, parce qu'en Royaume-Uni, il faut être élu.
C'est déjà pas mal.
Mais il est un peu dans la configuration qui a été de Gordon Brown. Gordon Brown est arrivé au 10 Downing Street. Il est resté pendant 3 ans en étant Premier ministre, mais sans avoir été élu sur son nom.
Oui.
Et c'est un peu le cas. Il a dû partir ensuite. Donc, est-ce qu'il va pouvoir, en 2 ans, remonter une pente qui, effectivement, lorsque vous regardez les...
Avec des gens qui vont lui s'abonner, Boris Johnson, il attend que ça.
Il l'a dit, la veille, il l'a dit, je reviendrai en 2024, la veille de l'élection, lundi. Donc, vous dites que ça va être extrêmement dur pour lui, mais s'il parvient à rétablir ne serait-ce que un tout petit peu le système de protection sociale, redresser la barre du point de vue du déficit courant et éventuellement, encore une fois, relancer la croissance économique tout en contenant la facture énergétique. Il a une chance en 2024, pourquoi pas. Et ça fait beaucoup de si. Ceci étant, il est fortement remonté très vite dans les sondages, ce qui est peut-être, il y a peut-être un élan pour lui.
Michel Rumi, c'est le sauveur d'une Grande-Bretagne qui est en perdition ?
Je crois pas. Je crois pas parce que c'est une victoire par abandon. Puisqu'il a prononcé rien du tout, il a été élu, et d'autre plus, il a été élu par ses pairs, on va dire Parti conservateur, pas par la représentation nationale. Donc il y a un déficit de légitimité, les gens ne se retrouvent pas. À la limite, le caractère, et je dis bien, le caractère de Boris Johnson serait plus proche de la population anglaise que Rishi Sunak. Donc il y a un déficit. Donc il doit convaincre déjà là-dessus. En même temps, il est débordé par les travaillistes parce que aujourd'hui, si on fait des élections, il serait perdant. Donc il a dit, il faut s'unir ou mourir. Il a adressé à ses partenaires conservateurs de dire ça. Donc, on voit déjà qu'il y a du travail sur la planche. Et puis, deux ans, c'est très court, en espérant que rien ne se passe, puisque les 2 dernières années ont été un peu mouvementées dans le monde. Donc, les problèmes sont là. C'est pas si simple. Déjà, on voit qu'il a reporté son programme budgétaire à mi-novembre. Et puis, en même temps, ça perturbe un peu, en même temps, la politique de la Banque centrale, puisqu'elle devait remonter ses taux et tout. Donc, ça pose ce type de problème. Donc il devra piloter le fine-tuning, et c'est pas si simple que ça dans un contexte où c'est compliqué en Angleterre. Pour nous, ça pose aussi en tant qu'Union européenne, ça pose des problèmes parce que c'est un partenaire qui pouvait apporter des choses, et là on a une zone encore d'instabilité avec l'Italie, avec l'Allemagne. Ça pose ce type de problème à l'intérieur et à nos portes.
Ben Aouda, on est quand même dans les conséquences du Brexit, on vit toujours les conséquences du Brexit, parce que les gens me disent, ah oui, c'est la crise d'Ukraine et l'inflation. Non, on est dans le Brexit, là.
Non, bien entendu, on est toujours dans le Brexit. Et on tente d'occulter cela, mais effectivement, et somme toute, Rishi Sunak, c'est le premier. Hein, quand on y réfléchit bien, c'est le premier chef de gouvernement du Brexit. Encore une fois, il y a un tel décalage avec la personnalité, le fait que ça soit le premier asiatique, comme on dit là-bas, ce qui est révolutionnaire, historique, pour le Royaume-Uni. occulte ce facteur-là, qu'il est le représentant du Brexit qui accède au pouvoir et qui va devoir assumer les choix de son peuple en 2016.
Et trouver un modèle. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de modèle. Le modèle, c'était un peu Singapour on Thames, mais Liz Truss a essayé. En deux mois, ça a été dégagé.
Et non seulement ce Singapour sur la Tamise n'est pas possible, mais en plus de ça, lorsque vous voyez par exemple qu'il remet en cause les éléments de puissance, de projection de puissance du Royaume-Uni, parce que Liz Truss avait dit que ça sera 3% du PIB qui sera consacré à la défense en 2030. Il comprend bien qu'il ne peut pas augmenter d'1% du PIB pour aller à la défense. Et là, il remet en cause aussi cette projection de puissance. Donc, il va y avoir des écueils extraordinaires à surmonter pour lui.
Jérôme Fauvel, un mot ?
Juste pour avoir traversé dernièrement le Pays de Galles en vélo, en faisant plusieurs centaines de kilomètres sans passer par les grandes villes et connaissant toutes les régions d'Angleterre en vélo, très franchement, j'ai été frappé par l'environnement économique que je n'avais jamais ressenti en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants, qui ne font plus restaurant parce que ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de...
Vous voulez dire, vous avez ressenti la crise ?
Ah, franchement, oui.
Vraiment ?
J'ai ressenti...
Donc vous avez ressenti ce que décrivent certaines personnes en disant le déclassement de la Grande-Bretagne ?
Ah, je l'ai vraiment ressenti et je pense que s'il y avait des élections, parce qu'en fait, quelque part, le Parti travailliste demande des élections, moi, je pense que le Parti travailliste passerait.
Ah oui, largement, de toute façon, dans les sondages.
Problème reste.
Un petit mot, Léa, sur l'aspect climatique.
Parce que... en fait, il ne vient pas à la COP27, c'est très dommage. Il faut rappeler que c'est quand même l'Angleterre qui a accueilli la précédente COP. Alors évidemment, il y aura des représentants...
Il pourrait y avoir le roi. Donc,
Oui, effectivement, qu'il y avait eu une sorte de figure un peu parrain lors de la précédente. Enfin... C'est dommage parce qu'ils ont une carte à jouer de ce point de vue-là. Et bon, il y a une urgence. La gronde sociale, je suis tout à fait d'accord, à mon avis, est ce qu'il craint le plus. Bon, on le verra.
Vous le déplorez. Allez, on passe à la question de la semaine et une question qui est un peu douloureuse, j'avoue. La France est-elle isolée au sein de l'Europe ? La chanson de Johnny Hallyday, le chanteur abandonné, c'était un peu l'effet que me donnait Emmanuel Macron quand le sommet franco-allemand a été annulé en dernière minute par l'Allemagne. En plus, l'axe Paris-Rome, ça n'existe plus depuis l'élection de Giorgia Meloni. L'Allemagne veut une Europe résolument tournée vers l'Est et moins vers le Sud. Alors, est-ce qu'on peut dire que Macron a une majorité relative en France et une minorité absolue en Europe, Ben Aouda ?
Ou l'inverse, les deux fonctionnent. En cherchant une idée un peu originale sur le sujet, parce qu'on a tout dit et tout vu ces derniers jours à ce sujet, je suis allé voir dans la presse russe et chinoise ce qu'ils en pensent. Et au départ, je me disais, ils n'en ont absolument rien à faire parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais non. Il y a un papier dans Commerçant, le grand quotidien économique russe. Enfin, quand je dis grand, c'est celui qui est le plus important. Qui a eu un œil très acéré sur la rencontre Olaf Scholz et Emmanuel Macron de mercredi, le déjeuner. En faisant une comparaison, somme toute, tout à fait possible avec la Russie, où il n'y avait pas de journalistes, pas de déclaration liminaire, pas de conférence de presse ensuite. Et on a dû se contenter de propos ensuite d'une réunion très constructive et productive, sans le moindre élément matériel probant. Et de ce point de vue-là...
rarissime.
C'est rarissime. Ou alors il faut que ça soit à la demande du chef de l'État qui vient et qui ne veut surtout pas croiser... Alors si c'est Xi Jinping ou le président des Émirats Arabes Unis, mais le chancelier allemand, c'était tout à fait inconcevable. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que c'était couru d'avance. Lorsqu'on a appris que ce conseil franco-allemand des ministres qui est gravé dans le traité de coopération d'Aix-la-Chapelle de 2019, qui provient du traité d'amitié franco-allemand de 1963, lorsqu'on a appris que cette institution symbolique, parce qu'ils ne décident rien de particulier, avait été repoussée, le porte-parole de la politique étrangère de la CDU, le parti conservateur allemand, a estimé que ce report allait déclencher la plus grande des joies au Kremlin. Bon, c'est peut-être, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter que de s'occuper de cela, mais c'est effectivement une démonstration de faiblesse à l'échelle internationale que de montrer que les deux principales économies de la zone euro ne sont pas capables de se mettre d'accord sur une rencontre symbolique pour un tas de raisons, mais c'est quand même frappant.
Est-ce qu'il y a un isolement aujourd'hui de la France? Moi, je le ressens, hein, le perçois, je le sens très fort. Et je me dis que ça va avoir des conséquences économiques importantes. Parce que si aujourd'hui, l'Allemagne décide de se tourner un peu plus vers l'Est et vers le centre et moins vers le sud, c'est-à-dire qu'elle va moins accepter d'abord le laxisme qu'on a eu de la Banque Centrale Européenne, on va en parler, et puis qu'on va passer à côté peut-être de la manne des dépenses militaires, de la transition énergétique allemande qui vont rapporter des dizaines, des centaines de milliards.
Hein. C'est la position, le recul de la France dans le monde économique, démographique et culturelle. Ce qu'il faut voir, c'est que en même temps, on a peu d'innovation technologique, on a un recul. Et je parle pas de déclinisme, hein, c'est simplement parce qu'il y a une forte compétition et qu'on n'a pas été compétition des pays émergents et que nous, notre place, on n'a pas lutté d'une certaine manière. Et donc, on a un recul dynamique. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la France ne peut exister qu'à travers des accords multilatéraux et on ne joue plus notre rôle de partenaire d'équilibre, de puissance d'équilibre. Et c'est ça qui pose problème. Parce que, eh bien, on rentre un peu dans le rang et on ne peut exister qu'à travers l'Union européenne et non pas tout seul. Et ça pose un problème parce qu'on ne peut pas peser. Hein, si la France parle, on a un problème d'auditoire.
Est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, contrairement, je repense à ce que vous disiez, que moi je suis un peu long, mais par rapport à la Russie, est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle de se dire que finalement l'Allemagne va être un peu leader de l'Europe avec une volonté de parrainage de l'Europe de l'Est et du centre face à la Russie, justement?
Alors, c'est exactement, j'y pense en même temps que vous, le souci étant pour l'Allemagne, c'est qu'elle-même, sa position est contestée. Parce que lorsque vous voyez que l'Estonie, la Lettonie, vous me direz, ce ne sont pas des superpuissances, mais en tout état de cause, estiment que le chancelier Scholz devrait suivre l'avis d'Emmanuel Macron et ne pas se rendre la semaine prochaine à Pékin parce qu'il fragilise l'Union européenne en allant à Pékin aussi vite dans une visite bilatérale. Lorsque vous voyez que l'Italie est sur la position française de ne pas acheter un bouclier antimissile aux Israéliens et plutôt trouver une solution européenne, alors que l'Allemagne a convaincu un certain nombre d'États d'Europe du Nord et d'Europe centrale et orientale, mais pas la Pologne. Et c'est ce qui fait dire à un certain nombre d'éditorialistes allemands, vous ne voulez pas de la France, très bien, mais vous voulez vous allier à qui? Au bloc des droites italiens? Aux nationalistes conservateurs polonais? Vous retomberez toujours sur le point initial qui est non pas ce couple franco-allemand, parce que les Allemands ne parlent pas de couple, mais ce tandem ou ce partenariat franco-allemand.
Bon, c'est plutôt rassurant. Léa, un petit mot?
Oui, moi je crois que ça fait surtout... Il y a eu un catalyse, c'est cette guerre en Ukraine, on le sait tous, ça fait ressurgir les divisions qu'on a en Europe, et en particulier les divisions de deux pays, effectivement, piliers, je dirais, de l'Union européenne, qui ne sont pas d'accord sur deux sujets clés, la défense... et l'énergie. Et voilà.
Et donc, je dirais un troisième, excusez-moi, aussi la rigueur budgétaire quand même.
Oui,
ouais, qui est quand même assez important parce que, en tout cas, la gestion, je ne parle même pas de rigueur budgétaire, la gestion budgétaire, l'absence de gestion budgétaire d'un côté en France et peut-être trop de rigueur budgétaire en Allemagne.
Même la conception de la politique monétaire par rapport à la politique budgétaire, on en est vraiment arrivé à là où deux ministres des Finances français et allemands se répondent l'un l'autre des éléments de langage tout à fait opposés.
Très bonne transition, Ben Aouda, puisqu'on passe au chiffre de la semaine et c'est 0,75%. La BCE a relevé ses taux, mais on a le sentiment. Alors, j'ai deux sentiments, en fait. Je me dis, soit elle a un ou deux, mais trop de retard. Bon, parce qu'elle a rien vu. Elle a rien vu avant. Elle a rien vu au début. Elle voit rien pour l'instant. Ou je me dis, par le plus grand des hasards et par accident, elle a un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il va y avoir, avec l'inflation qu'on subit, un vrai ralentissement de l'économie, ralentissement de la demande. Et du coup, elle n'aura pas à monter ses taux au-delà de ce qu'elle a fait ou peut-être encore un demi-pourcent ou 1%. Est-ce que la Banque Centrale Européenne est à un métro de retard ou elle a un coup d'avance par pur bol ou par accident?
Elle essaye d'être dans le rythme, et ce qui est très compliqué.
Ouais. Elle n'est pas du tout dans le rythme, ne me dites pas ça.
Non, la grande difficulté, elle s'est trompée, elle essaye de rattraper un retard, et puis surtout, elle a pris conscience que l'inflation sera là, au-delà de l'invasion de l'Ukraine.
Il était temps, non?
Oui, mais c'est tout le problème. Maintenant, elle est en rattrapage. Maintenant, elle essaye de retomber dans le même rythme de l'économie, et ce qui pose problème. Et ça ne rassure pas. Parce que d'un seul coup, elle dit, mais je vais gérer de réunion en réunion. Donc, ce qui veut dire que les marchés sont très volatiles, aussi bien obligataires et actions. Et donc, ça rassure pas. Donc, ça crée un climat un peu anxiogène pour l'Europe. Sachant qu'on n'a pas la même source d'inflation aux États-Unis et en Europe. Donc, c'est ça qui pose ce type de problème.
Michel Rumi, vous êtes économiste.
Oui.
D'accord. Quand vous voyez la Banque Centrale Européenne, en début d'année, alors qu'il y avait tous les sites d'inflation, dire il n'y a pas d'inflation. Quand vous la voyez après l'Ukraine dire l'inflation est temporaire et pas durable. Quand vous la voyez nier l'inflation jusqu'à que ça devienne de l'hyperinflation. Franchement, là, on se parle entre nous, personne nous écoute. Oui. Est-ce que vous vous dites, mais comment ils peuvent être aussi nuls et pourquoi il n'y a pas d'économistes à la table ou vous dites... Vous dites, finalement, tout le monde se plante et ils ont le droit de se planter.
Non, l'économie n'est pas une science certaine.
En matière d'inflation, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on a vu le train venir, mais de loin. Quoi.
Oui, mais après, c'est de voir comment la source, si elle vient de la demande ou si elle vient d'un choc exogène. Oui. Là, le grand problème, c'est que...
Elle est venue de la demande d'abord. Elle est venue du rattrapage du Covid. L'inflation, elle est arrivée avant l'Ukraine, il ne faut pas dire.
Oui, mais ça pouvait se gérer. Maintenant, il y a eu d'autres conséquences qui ont alimenté. La difficulté, c'est que maintenant, on se dit, elle sera persistante, elle ne devient plus que de la demande. Donc, il faudra gérer. C'est pour ça qu'il faut gérer l'inflation.
Il faut gérer l'inflation, mais donc, vous ne dites pas, vous n'êtes pas sévère. Vous ne dites pas comme moi, vous ne faites pas un procès en incompétence.
Non, parce que le monde évolue et demain, peut-être, on aura autre chose. Et c'est ce qu'il fera. Et le grand problème, c'est qu'on demande... C'est quoi une banque centrale? C'est une stabilité financière, c'est à moyen terme. C'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des trop chocs, de gros chocs qui perdurent et qui perturbent l'économie.
Jérôme Fauvel, une banque centrale, quand même, banque centrale européenne aux commandes, vous qui êtes gérant, ça vous dérange?
Je regarde de loin, parce qu'en fait, je ne gère pas...
Quand même.
C'est un impact, mais cela dit, c'est un impact majeur sur l'économie, sur la direction de l'économie, mais maintenant j'ai aussi une approche plutôt bottom-up, oui, c'est-à-dire de regarder les sociétés. Mais ce que vous venez de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'inflation vient de la demande. Non, elle vient de l'offre. C'est-à-dire, elle vient du fait que les coûts de transport étaient énormes, que les matières premières ont augmenté, le prix du gaz était à 400 ou 350, on est redescendu en dessous des 100, et la majeure partie des augmentations de prix ont été dues à ça. La demande, elle n'a pas été énorme. Et si, je dirais qu'à la limite, si je suis assez confiant sur le cycle, c'est que je pense qu'il y a un réservoir. On a connu un niveau des stocks de produits finis au plus bas historique jamais connu en 2020. Donc, je veux dire, quelque part derrière, pendant 2 ans, les gens n'ont peu ou prou consommé. Donc, il y a un retard à combler.
Bah là, vous êtes en train de décrire l'inflation par la demande. Le retard...
D'accord, mais oui. Cela dit, c'est la demande marginale qui provoque l'inflation. C'est pas la demande en elle-même. On part d'un niveau tellement bas. Et puis, je dirais, l'ensemble des éléments, que ça soit le Baltic Index sur les transports, que ça soit...
Oui, sont en train de refluer. C'est
sont
ça
en train de, ouais. Sont en train de refluer. Et donc, je veux dire... Pour moi, c'est pas une inflation liée à la demande.
Benahouda, vous êtes moins sévère que moi parce que vous dites en fait la BCE, elle est dans une situation, je vous ai écouté, elle est dans une situation qui est différente de la Fed. Oui. C'est-à-dire qu'elle a tellement d'interlocuteurs qu'elle ne sait pas à qui parler en fait.
Elle est prisonnière d'intérêts tout à fait contradictoires et de panorama macroéconomique tout à fait contradictoire. Ce qui amène Christine Lagarde lors de sa conférence de presse à devoir, lorsqu'on lui pose une question sur le fait que Giorgia Meloni, la nouvelle chef de gouvernement italien, estime que les taux d'intérêt, enfin la hausse des taux d'intérêt nuisent non seulement aux pays endettés mais aux entreprises et aux familles de ces pays endettés en pensant à l'Italie, qu'elle soit amenée à dire qu'une banque centrale a pour mandat la stabilité des prix, qu'il faut faire ce qu'il faut faire et qu'il faut poursuivre cette mission par tous les moyens. Et lorsque vous êtes le président de la Banque centrale américaine, vous avez un interlocuteur et puis avec le Congrès, idem pour le Royaume-Uni, idem pour tout le reste.
Donc vous êtes indulgent en circonstances atténuantes.
Mais ceci étant, en réfléchissant à votre propos aussi, lorsque vous voyez que la Banque centrale du Mexique, je prends des États membres de l'OCDE, parce que du Mexique, du Chili, de la Colombie ont eu cette analyse, celle que vous avez là, bien en amont de celle de la Banque centrale européenne, c'est que si eux en ont été capables, pourquoi la Banque centrale du Mexique a été capable d'avoir cette lecture-là et pas la Banque centrale européenne? C'est une question qu'il va falloir résoudre dans les semaines et les mois qui viennent.
C'est une question qu'on pose donc à Christine Lagarde qui doit aller faire un tour au Mexique alors.
Et au Chili, en Colombie également.
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va se poser la question de savoir où vont les marchés. Question vaste. Les rallyes de fin d'année, est-ce que ça existe? Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou à vendre. Ne partez pas très loin, on revient tout de suite.
Tous les week-ends sur BFM Business, Alexandre Lichamp donne la parole aux entreprises qui recrutent dans le club Média RH. Innovation, tendance, carrière, acquisition de talents, experts de management, responsables des ressources humaines, spécialistes de la formation et invités issus de la société civile réagissent à l'actualité de l'emploi. Le club Média RH, présenté par Alexandre Lichamp, tous les samedis à 10h et dimanche à 20h sur BFM Business.
Le club Média RH avec Triangle Intérim. 250 agences pour garantir vos recrutements. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus.
Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay.
C'est pouvoir écouter RMC, mais aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Radio Player France, c'est aussi totalement gratuit.
Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Tous les week-ends sur BFM Business, retrouvez Tech & Co Business. Cybersécurité, cloud, intelligence artificielle, finance, relations clients, green IT, digital workplace. Des experts, des débats, des témoignages, des analyses pour décrypter toutes les innovations tech et l'actualité des startups B2B. Tech & Co Business avec Frédéric Simotel, samedi à 15h30 et dimanche à 17h sur BFM Business.
Retrouvez Tech & Co Business avec Gility, expert depuis plus de 40 ans dans la gestion de vos infrastructures IT.
BFM Business à Bordeaux, 107.3.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail. Bruno, BRUNEAU, à vos côtés pour réussir.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et après une première partie passionnante, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va se poser les questions que vous vous posez tous. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je me les pose. Où vont les marchés? La question d'argent, c'est ces fameux rallyes. Là, on s'approche de la fin d'année et puis on essaye de se donner des perspectives heureuses. Alors, est-ce que les rallyes de fin d'année existent? Dans quel segment de la côte il faut investir? Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants. Vous allez voir encore des surprises. Et les actions à acheter ou vendre. Allez, on passe directement au marché. Bon, alors c'est vrai que quand je regardais les chiffres, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Mais en fait, quand on les regarde, moins 12 ou moins 13% sur le CAC, moins 17% sur le DAX, moins 20% sur l'S&P, moins 31% sur le Nasdaq, moins 16% sur l'Eurostock, bon, Shanghai, moins 18%. Bon, que j'arrive à me dire que c'est pas mal, c'est que vraiment, ça a été la catastrophe. Alors, je vais poser la même question que la semaine dernière à nos pros de marché, je profite qu'ils soient là. Une question simple, hein. Est-ce que la hausse qu'on vient d'avoir ces derniers jours, est-ce que c'est un rebond technique dans un marché baissier ou est-ce que c'est un renversement de tendance, Léa Dunant?
Alors moi, je ne suis pas du tout dans la catégorie de la renversement de tendance. Je pense qu'on a encore un certain chemin à faire pour pricer l'ensemble de nos craintes. C'est un rebond technique. Quelques éléments d'incertitude qui se sont évaporés, mais enfin, c'est très bref. Ça ressemble exactement à ce qui s'est passé cet été, honnêtement. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre quelques bénéfices pour l'instant, puis à attendre tranquillement l'atterrissage de la fin d'année, parce que il y a encore beaucoup d'éléments. Et les sociétés qui commencent à publier, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais là, il y a quand même des... Ça y est, ça se concrétise, tout ce qu'on craignait. Les volumes sont plus là, elles n'arrivent pas à vendre. Les passages de prix se font encore, mais c'est compliqué. La dette s'accroît dans pas mal d'entreprises. C'est structurel et c'est normal. Moi, je suis pas sereine.
Là, vous avez l'impression que... C'est intéressant, on va s'arrêter deux secondes. Vous avez l'impression que les résultats des entreprises
commence à se dégrader et à accuser le coup.
Oui.
Parce qu'on a eu une sorte de période un peu bizarre hein, pendant les six premiers mois de l'année. On l'a dit ici, on se disait, tiens, les résultats des entreprises ont l'air de tenir, elles sont ultra résilientes, c'est fantastique. Oui. Puis là, on a senti un décrochage juillet-août, hein, c'est ça ?
Absolument.
Et là, vous sentez que c'est en train d'impacter les...
Effectivement. On avait eu vraiment trois phases. Un début d'année avec des craintes sur les marges à cause de la hausse des prix. Finalement, des passages de prix qui se sont faits sans difficulté et un été plus mitigé entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. On a eu quelques entreprises, quelques patrons qui nous ont dit attention. Et qu'est-ce qui est attaqué ? Les entreprises qui sont exposées à la construction, notamment résidentielles. Ça y est, ça s'essouffle et ça se voit. Toute la conso. Globalement, toute la conso. Michelin l'a dit. En gros, tout ce qui est exposé au client final commence à devenir compliqué. Et les entreprises exposées à d'autres entreprises font face à des problèmes de créances parce qu'elles n'arrivent pas à payer, elles ont des factures dans tous les sens. Donc ça commence à devenir un peu plus compliqué pour moi.
Jérôme Fauvel, vous êtes l'homme des cycles hein, dans cette émission, hein. Des cycles économiques, mais aussi j'imagine des cycles boursiers.
Oui.
On est dans quelle partie du cycle là ?
Alors pour moi, on est en... Comment je dis où on est, puis après je développe. On est toujours en phase de maturité. Alors pourquoi on est en phase de maturité ? Simplement parce que je veux dire le taux de chômage est relativement bas, les salaires commencent à monter, le côté non négatif et je salue Rex Ecode qui fait des études dans ce domaine montre que sur les 12 derniers mois les salaires dans les entreprises ont moins augmenté que le taux d'inflation et hormis je veux dire ce que l'on a pu voir dans le domaine du secteur pétrolier dernièrement. En fait, les sociétés que nous pouvons rencontrer, je voyais par exemple hier MGI Digital, dont les résultats sont très bien, disaient que au mois de janvier, ils avaient anticipé, ils avaient augmenté le salaire de 5% et qu'en date d'aujourd'hui, en fait, je veux dire, tout se passait
bien.
Très bien dans les sociétés. Alors donc, je veux dire, ça, c'est des exemples où, enfin, en tout cas, sur le chômage et sur le fait qu'il n'y ait pas de spirale négative salaire-profit, c'est logiquement, on est en phase de maturité. Mais je voudrais revenir juste un instant.
Attendez, la phase de maturité, la phase d'après, c'est quoi ?
C'est la récession.
D'accord.
La crise, la récession.
On y va ?
Il y a trois. Alors ça, je ne sais pas exactement. En date d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup d'indicateurs, je veux dire, qui me disent que...
On y va.
On va en récession, on le verra, on réfléchit en marchant. Si effectivement il y a ce qui traduit souvent la fin du cycle de maturité économique, s'il y a une spirale négative salaire profit des entreprises, effectivement on ira vers une récession. En date d'aujourd'hui, on peut pas constater ça comme je viens de le dire. Et en fait, pourquoi, cela dit, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile d'avoir une idée en date d'aujourd'hui? Juste un tout petit peu d'histoire. On vient de vivre en 2019 ce que l'on n'a jamais vécu dans l'histoire de, je veux dire, économique de ces dernières décennies. C'est-à-dire que l'économie a été mise en coma artificiel.
2020, c'est ça.
Et il faut se souvenir que fin 2019, en fait, on abordait une récession. En tout cas, sur le plan industriel, c'était très clair.
Avant le Covid, vous voulez
avant
dire
le Covid, okay. Oui. Avant le Covid, on voit, ça commençait à...
Vous vouliez dire qu'il y avait déjà une inflexion, et Covid ou pas Covid ?
Il y avait une inflexion. Et moi, je dirais que cette inflexion, en fait, elle s'est passée un peu sans se voir, en fait, c'est-à-dire pendant deux ans, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises au niveau des entreprises pour les refinancer, pour les aider à passer cet aspect. Et en fait, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que les entreprises, et je peux vous assurer que je le constate, toutes les entreprises, la majorité des entreprises cotées que nous avons en portefeuille sont des sociétés qui continuent à investir en date d'aujourd'hui. Et d'ailleurs,
donc ce que voit Léa, vous avez pas du tout, c'est pas le même son de cloche, hein.
Moi, je vois des plus petites sociétés. Okay. C'est, je veux dire. C'est,
oui, vous êtes. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de valeur moyenne. Hein.
C'est voire
small cap. D'accord.
Et donc, j'ai toute une liste. J'ai une quinzaine de valeurs qui font partie de notre portefeuille. Je vois, France Énergie T1 multiplié par 3, Infotel plus 13%, MGI Digital 20%, Marie Brizard plus
17%,
SES Imagotag 108%. Donc, et ce sont des sociétés qui investissent très très fort en date d'aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle le dernier point,
pardon,
c'est que la valorisation des marchés, moi personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans mon existence de gérant. C'est-à-dire que.
C'est-à-dire aussi bas ou aussi.
Ouais, aussi bas. Ouais.
Ah oui.
C'est-à-dire que je prends FactSet. Ouais. Sur le CAC 40, et je prends les sociétés françaises parce que c'est ma spécialisation, sur le CAC 40, sur 2022, et on a quand même une bonne visibilité sur 2022, on a à 9,3 fois les résultats. Sur 2023, et on commence à avoir aussi une visibilité, maintenant oui. C'est vrai que c'est du forward.
Oui, bien sûr, on sait.
Mais on est à 10 fois les résultats. Moi, il y a quelque chose que je regarde, et un clin d'œil à mon collègue, puisqu'on regarde ça toutes les semaines, c'est la différence entre le PE du SP500 et du CAC 40. Moi, traditionnellement, je veux dire, depuis des décennies, c'est 3,5% d'écart. En date d'aujourd'hui, le SP500 est à 16 fois les résultats, et le CAC 40 est à 10 fois. Et avec un rendement de 3,6. Donc voilà.
Vous allez presque répondre à la question d'après. Michel, vous avez quelque chose?
Oui, je voudrais
dire. Les économistes s'intéressent au marché?
Oui, parfois, de temps en temps. Non, ce qui va être important pour moi, pour les prochains mois, ça va être la réponse notamment sur la hausse des salaires et surtout le taux de change défavorable de l'euro, qui va impacter, on va dire, les économies, notamment celles qui exportent, et puis également aussi. Et celles qui aussi, vont devoir gérer le ralentissement qui est déjà présent. Donc tout cela fait que on va avoir un fort impact pour les résultats. Et je ne sais pas si on parlera de récession, mais c'est pas le problème. C'est pas de porter un nom. C'est que la situation économique sera dégradée. Donc sa récession ou pas, c'est pas si on fait moins 0,1 qu'on sera en récession, et si on fait plus 0,1, c'est qu'on sera dégradé.
On passe tout de suite à la question d'argent de la semaine. Et la question d'argent, elle est simple. J'ai essayé de remonter le moral des gens qui nous écoutent. C'est de dire, est-ce que il y a vraiment ce qu'on appelle les rallyes de fin d'année, et va-t-on en avoir un cette année ? Léa Dunant, je me tourne vers vous. Est-ce que ça existe d'avoir le rallye de fin d'année, ou est-ce que c'est un truc bidon de trader, de vieux trader comme moi?
J'ai le droit de répondre.
Oui, vous avez le droit de dire, c'est un truc bidon de vieux trader.
Je pense que je vais dire oui. Et puis en plus, j'aime pas les boules de cristal, c'est très difficile. Donc,
non, mais on regarde l'histoire.
Bien sûr. Mais statistiquement, oui.
Ah, ok.
Janvier aussi, dans ce cas-là.
Janvier aussi.
On pousse un peu plus loin et puis on dit que c'est peut-être le moment d'y aller. Ah bah, si on suit les statistiques, alors moi, j'ai plus rien à dire.
Non, mais vous y croyez?
Non,
pas
moi
du
j'y
tout.
Crois pas. Également, ce qui a été dit, on est à peu près tous d'accord. Je ne vois pas une situation.
Non, Jérôme, pas du tout.
Mais je sais pourquoi.
Non, non,
parce
vous dites pas. N'essayez pas de créer un consensus là où il y en a pas du tout. Non, il a dit exactement le contraire.
Il est sur un segment différent, et j'ai été interpellée par la notion valorisation faible. Bah oui, effectivement, CAC 40 et effectivement S&P tout à fait différent, et certains segments de marché pour moi encore chers. Mais là, je comprends mieux l'approche très segmentée.
Oui, mais là, le CAC 40, c'est quand même large, quoi.
Oui.
C'est-à-dire, si on dit le CAC 40 est pas cher, non?
Oui, mais il y a des disparités quand même encore au sein du CAC 40 entre certaines valeurs. Et puis moi, c'est un terrain de jeu qui est vraiment encore tout petit. Donc moi, regardez la tech comme elle embarque l'ensemble du marché encore aujourd'hui, et les niveaux de valorisation de certaines entreprises, elles ne sont pas 12 fois les PE ou en dessous de 10, hein, encore loin de là. Certes, deux fois contractées par rapport à l'année dernière, mais encore très élevées.
Jérôme, est-ce que ça existe, vous qui êtes un vieux gérant, comme moi je suis un vieux trader, est-ce que ça...
Un ancien, enfin un vieux, c'est...
Non, mais il faut assumer.
Senior.
Non, je suis pas d'accord. Il y a un moment, il faut assumer.
Alors, donc, une chose est certaine, c'est que souvent, au mois d'août, les marchés ont des évolutions un peu brutales en fonction des résultats semestriels. Et que, c'est vrai, je dirais un peu la même chose. C'est-à-dire que, oui, pour des raisons quelquefois techniques d'investissement de fin d'année avant la hausse traditionnelle du mois de janvier... et c'est vrai que très franchement, on le regarde, oui. Oui, on le regarde.
Vous le regardez? Vous dites ça pour me faire plaisir, pour que je ne sois pas ridicule avec ma question nulle.
Non, c'est vrai que quelquefois, on le prépare le mois de janvier, et on le prépare entre le 1er et le 15 décembre, oui.
Ouais, d'accord. Oui. Et alors, par contre, ça m'amène à la question qu'a introduit Léa. C'est-à-dire, le mouvement de janvier existe? Ça, c'est une réalité?
Oui, ça, c'est...
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les gérants qui arrivent, ils se disent, bon, il faut qu'on démarre l'année, il faut qu'on justifie notre rémunération?
Premièrement, une fois encore, moi, je suis sur des...
Oui, bien sûr, mais...
Et donc, c'est souvent, le mois de janvier, c'est une envolée assez lyrique des indices, oui.
Lyrique. Oui.
Peut-être négligeons pas le fait que les institutionnels, qui sont des gros porteurs, ne sont absolument pas dans les marchés actions et vont commencer à se repositionner.
Quel segment aujourd'hui vous privilégiez, et vous particulièrement qui êtes une spécialiste un peu des valeurs vertes et de ce secteur-là, où est-ce qu'il en est très rapidement ce secteur?
Le secteur vert.
Il a été sous pression après les valorisations qui ont été
absolument
très riches.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est le moment de rentrer, ou il y a encore un semblant de correction?
Alors, des éléments de contexte. Je repars de la crise Covid mars 2020. jusqu'à janvier 2021, le S&P Clean Energy a été multiplié par 3. Okay. Avec des niveaux de valorisation dont je ne donnerai même pas les chiffres parce que pour certains étaient stratosphériques. Depuis, ça a rebaissé de 60%.
Okay.
On n'est quand même pas revenu sur des niveaux de valorisation acceptables, mais ça commence à devenir intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le comportement des investisseurs qui en voulaient tous il y a 2 ans et qui en veulent plus aujourd'hui. Deuxième élément, moi je trouve extrêmement frappant de voir qu'il y a eu une corrélation inversée entre la hausse des taux et tous ces actifs verts. Oui. Jusqu'en février. Février a marqué le pas de dire attention, la crise énergétique, c'est une problématique aussi de transition énergétique. Et donc, à nouveau, on voit les actifs verts qui sont en surperformance sur les marchés versus, en fait,
donc
des taux qui commencent à monter.
D'accord.
Voilà, exactement. Alors, en termes de positionnement, c'est simple. Hein. Il y a trois éléments. Mmh. On va parler des énergies renouvelables, pour faire simple. En ce moment, on va sur les énergies renouvelables qui sont les moins endettées. C'est des actifs à duration longue. EDPR est un très bon exemple. Okay. Les petits pure players, attention, parce qu'il va y avoir de la réglementation
EDPR,
dans ce secteur.
C'est au Portugal. Hein, c'est
exactement.
Je suis bon.
Et donc, je pense qu'il...
Ouais. Ah, il fallait le savoir, pas mal quand même.
Vous êtes allé en vacances?
Non, non, c'est en fait, allez, j'ai triché parce que c'est Moneta. C'est Moneta qui nous a conseillé.
Parce que j'en avais pas parlé avant.
Moneta nous avait conseillé, Romain Burnand nous avait conseillé l'action.
Ah ouais,
donc
bah,
je connais.
Une des rares d'ailleurs positives depuis le début de l'année. Donc vraiment de la prudence sur les tout petits, les gros comme EDPR très bien et les fameuses utilities intégrées type Iberdrola. De l'autre côté, il y a l'efficacité énergétique, toujours dans les greens. On attend un peu de laisser passer tout ce sujet construction, la demande qui s'effondre. Je pense à Schneider Electric, par exemple. Bon,
là,
il y a encore quelques mois. Ouais.
Jérôme, juste question vraiment en quelques secondes. Votre spécialité, c'est les valeurs moyennes et les small caps. Elles sont faites, mais dégommées cette année. Est-ce que c'est le moment de re-rentrer?
Bah, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui semblent très intéressantes. Oui, c'est certainement le moment de faire son marché pour certaines sociétés, oui.
Allez, on passe au mot de la semaine. Michel Rumi, le mot de la semaine pour vous, c'est quoi?
C'est l'ISF, en fait.
Ah oui? Sympa.
Oui, non. En fait, l'idée est que je fais un rapport suite au rapport de Fonds Stratégique, en fait, qui a voulu savoir quelles étaient les retombées de la suppression de l'ISF et voir sur l'économie. Donc, première des choses, 2 constats, 2 points négatifs. La France est toujours aussi taxée sur le capital, même au niveau européen, et même la part de la taxation du capital par rapport au prélèvement obligatoire est toujours élevée. Donc, c'est pas tellement réjouissant. Côté positif, eh bien, l'exit fiscal est réduit. Il y a plus de revenants que de partants, donc c'est quelque chose de positif. L'inverse est que on ne sait pas quel est le ruissellement qu'on nous avait vendu pour l'instant, puisqu'on manque de données, manque de recul de données.
Allez, on peut se dire entre nous ici, on sait qu'il est nul, mais on ne va pas le dire à l'extérieur.
Oui, mais ça fait des lits d'initiés après.
Ouais.
Mais donc, rien que simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les recettes fiscales n'ont pas augmenté, contrairement, et donc peut-être c'est une justification de la courbe de l'affaire. D'impôt, tu l'impôt.
Léa Dunan.
Oui, moi j'ai choisi lithium. Pour une fois, j'ai réussi à faire un mot. Lithium, parce que je rebondis sur ce qu'a annoncé Imerys. Et j'aime bien de rappeler une chose. Ils vont aller essayer d'extraire du lithium dans une mine de l'Allier qu'ils exploitent déjà. Et ça serait pour 2028. 2 choses. D'abord, les métaux rares ne sont pas rares et on en a dans nos pays. C'est important de le rappeler. Donc on est très dépendant. Cette dépendance énergétique, on veut l'enlever. Mais on oublie qu'il va falloir quand même traiter certains problèmes chez nous. Donc il y a un sujet écologique très fort. C'est soutenu par le gouvernement à juste titre et je pense qu'il faut absolument trouver un modèle économique d'extraction minière écolo, durable, vert, je ne sais pas comment on l'appellera. Ben, il faut le trouver, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, d'accord.
Ça n'existe pas. Juste... Mais c'est une excellente idée que des acteurs français commencent à se poser la question de pouvoir extraire ce type de minerai que l'on a, à commencer par le lithium, pour adresser le marché français, éventuellement européen, et enlever notre dépendance.
Jérôme Fauvel, le mot de la semaine pour vous?
Alors pour moi, c'est la note de l'AMF qui a été publiée il y a quelques jours sur les equity lines. C'est-à-dire, une equity line, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une société cotée puisse avoir un accord avec une autre, une société, un intermédiaire financier, qui lui permet d'émettre au fil de l'eau des augmentations de capital. Et donc, elle alerte simplement parce que sur les 12 derniers mois, non pardon, depuis le 31 décembre 2021, il y a eu 69 sociétés qui ont fait appel à ce type de
financement.
De financement. classement. Et en fait, sur ces 69 sociétés, 57 ont enregistré des baisses moyennes supérieures à 72%. Sur ces 57 sociétés, il y en a 20 qui ont eu des performances négatives supérieures à moins 90%. Et seules 17 sociétés ont eu des performances positives. Donc elle alerte sur cet aspect.
L'instrument précis, hein, c'est même, on appelle ça OCAPSA.
Oui.
Oui, alors, non, mais on rentre pas dans les détails. Oui, mais c'est juste pour que les gens entendent.
Fait un effort,
oui, non, mais c'est pour que quand on voit des articles, on sache de quoi on parle. On parle des equity lines. Dans les equity lines, c'est très technique, mais c'est pas grave.
C'est très technique.
C'est les OCAPSA qui étaient visés.
Simplement, je veux dire, cet aspect, je suis très content de voir cette note parce que je fais
oui.
souvent.
Enfin, sauf que c'est une note d'alerte, mais il n'y a aucune mesure qui est prise.
Non, mais cela dit,
c'est une recommandation.
C'est une recommandation.
Mais oui,
cela dit, c'est souvent ça
police,
commence
hein.
par une recommandation.
Ouais. Ben Aouda, le mot de la semaine pour vous.
C'est nucléaire. On voit qui se passe ailleurs, des choses ailleurs qu'en Europe, et la température monte en Asie orientale. Kim Jong-un s'apprête, disent les Américains, les Sud-Coréens et les Japonais, à procéder à son 7e essai nucléaire. Le dernier date de septembre 2017. Et c'est peut-être l'occasion, se disent un certain nombre de stratèges, de militaires, de diplomates occidentaux, de tirer les conclusions une bonne fois pour toutes que la Corée du Nord possède bel et bien l'arme nucléaire et qu'il faut négocier avec elle en tant que telle, en tant que puissance nucléaire, et qu'au lieu de chercher à une fois encore déclencher une batterie de sanctions, plutôt aller vers éventuellement la négociation d'une convention de contrôle. En tout état de cause, l'idée aussi c'est qu'on n'entre pas dans un engrenage une fois encore de déploiement d'armes nucléaires tactiques en Corée du Sud qui pourrait amener à ce que la situation dégénère, et cette fois-ci dégénère pour de bon, et que pendant un certain temps l'affaire russo-ukrainienne passe même celle-ci au second plan.
Ouais, je vous avais vachement rassuré, merci.
Non, mais c'est...
Ah, là vous avez plombé le week-end, les vacances. Alors là, c'est bon. Allez, on passe au top 3 et vous allez voir. Alors là, c'est, par contre, c'est reparti. Hein, de feu, le numéro 1 est à moins 6,9%. C'est Pierre Chang. Le numéro 2, Romain Burnand, est à moins 7,1%. Le numéro 3, Frédéric Rosier, est à moins 9,3%. Je dis que c'est bien parce que d'habitude, les trois premiers, depuis quelques semaines, ont été en dessous de 10%. Donc tout va bien. Bon, même si les performances s'étalent évidemment comme les indices, en fonction des indices de référence, entre moins, comme on l'a vu, moins 7 et moins 30 ou 35%. Léa, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait de vos valeurs et vous me direz ce qu'on achète après. On a du Plastic Omnium.
On garde.
On a du SCT.
On enlève.
On vend, d'accord. On a du Dassault Systèmes.
Ah, on garde.
On a du Sika.
On garde.
On a du Nibé.
On garde.
On a du ID Logistique.
On garde.
On a du Inwido.
On garde.
On a du Lonza.
On garde.
Et vous nous aviez proposé aussi, quand vous êtes venu la dernière fois, du Rational.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui ?
Une seule valeur, Assystem. J'achète pas grand-chose en ce moment, mais Assystem, c'est pour moi une entreprise intéressante, justement, alors dans le cadre du nucléaire, mais sur un thème un peu différent, c'est-à-dire que c'est une société qui fait du conseil, de l'accompagnement en maîtrise d'ouvrage pour des infrastructures complexes, aussi de la R&D externalisée, qui a les deux tiers de son chiffre d'affaires dans le domaine du nucléaire, et évidemment qui accompagne le parc nucléaire français et au-delà dans toutes ces problématiques, y compris opérationnelles un peu compliquées aujourd'hui. Donc, il y a un avenir, un carnet, de commandes sans fin. Et pour moi, je reste persuadée que ça sera une énergie de transition incontournable. Donc, leur métier et leur apport est indispensable. En termes de valo, c'est pas très cher.
Mais c'est une société sur laquelle il y a eu pas mal d'opérations en capital. Il y avait eu des OPA, du management avec un fonds.
Absolument.
D'accord. Et elle n'était pas sortie de la cote.
Non.
Et donc, elle est toujours. Il y a très peu de flottant,
j'imagine. Exactement. Elle fait à peu près 550 millions d'euros de capitalisation et il y a 40% de flottant. Donc, c'est effectivement pas très liquide. C'est peut-être le seul point. En revanche, on est sur des niveaux de valorisation très attractifs. Pour nous, c'est un bon moment d'y aller.
Vous la connaissez, Jérôme ?
Non,
Assystem. Pourtant, c'est un peu. Oui, pardon. J'aurais été.
J'aurais tombé de ma
tête. Et là, c'est. Non, vous l'avez en portefeuille ou pas du
alors,
tout
je ne l'ai pas en portefeuille. Oui, pardon, je pensais autre chose.
Non, mais vous pouvez penser à ce que vous voulez. Hein. Emmanuel Lechypre, il vient même avec ses fiches de recettes pour le week-end. Donc,
je la connais même très bien.
Très bien, bah oui, c'est pour ça que je voulais.
J'ai un certain temps avec Monsieur Louis, le.
Voilà, Dominique Louis.
Et c'est très amusant parce que souvent, ils font allusion allusion à leur activité nucléaire, mais ils sont un peu à contre-courant. C'est-à-dire que quand ils n'en font pas allusion, le nucléaire monte. Quand ils en font allusion...
Donc ils ont un petit problème de communication. Donc, on va les conseiller. Jérôme Fauvel, je vais vous donner votre portefeuille. Vous avez du Figeac Aéro. Vous avez une société qui a cartonné, c'est SES Imagotag. 43,4% de hausse depuis le début de l'année. Elle est à son plus haut historique, je crois.
Oui, c'est vrai.
Kerlink, Katana, Xilam, LDC, Solocal, Visiative, 2CRSI. Et vous nous aviez conseillé le 22 avril Carmat, qui a pris 27% depuis. C'est pas mal dans ces marchés de trouver des valeurs qui montent. Qu'est-ce que vous trouvez, nous, une autre valeur qui monte?
Ça fait partie du portefeuille du fonds La Française.
J'imagine, j'espère que vous nous conseillez ce que vous mettez en portefeuille.
Non, mais je prends toujours des valeurs qui sont dans le portefeuille. Et là, je viens de rentrer une valeur il y a très peu de temps qui s'appelle Transition Evergreen. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Parce que
vous piquez le fonds de commerce de
Léa Dunant. Vous ne m'avez pas posé la question quels étaient les thèmes que je choisissais. Donc, quatre pôles d'activité. Le premier, on va dire, c'est Safran, c'est dans l'hydrogène, les bus. Le deuxième, c'est Evergreen, c'est l'autoconsommation et développer des zones sur 2 km² qui produisent et autoconsomment. Le troisième pôle, c'est Everwood. Vous savez que j'aime la forêt. Et le quatrième pôle, c'est Evergaz. Donc, c'est l'un des leaders en France en matière de biogaz. Et à ce sujet, j'ai été visiter leur usine de Château-Gontier. J'étais franchement très impressionné par cette activité avec, je veux dire, tout un secteur d'hygiénisation, c'est-à-dire que dans cette usine, entre guillemets, rentre du sang des abattoirs, du dernier repas, et en fait, tout ça, c'est hygiénisé, ensuite, c'est transformé en biogaz, et biométhane. Et donc, en date d'aujourd'hui, la CAPI est de 100 millions. Moi, je pense qu'elle vaut logiquement, il y a 15 millions d'EBITDA, donc multiplié par 10, ça fait 150 millions, logiquement, en date d'aujourd'hui.
Donc un petit potentiel de 40 à 50% déjà, c'est pas mal.
Et je pense que dans 5 ans, leur plan dans 5 ans, en 2025, pardon, dans 3 ans, c'est 35, c'est mon calcul, 35, qui est tout à fait prudent, 35 millions d'EBITDA, vous multipliez par 10, ça ferait, 300 millions.
Allez, merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnel. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous re-revoir en replay, en podcast sur RMC BFM Replay et toutes les plateformes de podcast. Merci.